12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Bonjour, bonjour à tous, vous tous qui nous écoutez. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les matins. Et oui, dans la bonne heure, en public sur RTL. Merci, cher public, d'être venus nombreux pour une heure et demie d'humour et de bonne humeur avec une joyeuse bande. Il y a là Charlotte Bouteloup.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bah, je vais faire un petit teasing, je vous dis pas, mais je peux vous dire que ça va être chaud.
Ah. Ah, tiens, alors ça, c'est vous êtes toutes les semaines. Alors là... toutes les semaines, vous êtes chaude comme une baraque à frites.
Je suis chaude comme une braise, oui, mais oui. C'est une vraie tendance. Ah
bon, très bien. Très bien. Bon, nous sommes sur des charbons ardents. Avec nous également, Patrice Carmoz.
Bonjour. Bonjour, Patrice. J'ai envie de dire je vais t'aimer, mais ça sera plus tard.
Et vous avez, et Régis Maillot, vous avez la maladie d'amour?
Ah, toujours. En fait, j'ai toujours un peu MST qui porte mon nom.
On dit que c'est dans le genre.
C'est la marque du maillot.
Oh non. Stéphane de Groot est avec nous.
Bon anniversaire.
Vous n'avez pas une chanson préférée, vous?
Michel Sardoudou.
Ah, d'accord.
C'est vrai, il s'est adouci.
On va retrouver.
J'en foutais de ce que j'ai
jamais été dur. Il n'a jamais été dur, vous ne le connaissiez pas, simplement. Et on va retrouver Eric Dussard pour la télé. Et Raphaël nous accompagne.
Oui,
bonjour, Raphaël.
Bonjour à tous. Je suis avec mon seau d'eau au cas où Charlotte dérape.
Oui, c'est bien. Merci beaucoup.
Pour éteindre les braises.
En près de 50 ans de carrière, il a enregistré plus d'une vingtaine d'albums, interprété quelques 300 chansons et vendu plus de 90 millions de disques, et décroché 3 victoires de la musique, dont celle d'avoir attiré le plus grand nombre de spectateurs à Bercy. Bercy, où il a donné rendez-vous à tous ses fans du 12 au 14 décembre prochain, alors qu'il entreprend une grande tournée dans toute la France, du 30 novembre au 19 mars. Oui, parce qu'après, il y a des dates, mais c'est en Belgique, c'est plus la France. S'installant dans tous les zéniths de l'Hexagone pour partager avec le public ses meilleurs moments. C'est aussi le titre, mes meilleurs moments, du best-of qui sort d'une trentaine de ses chansons cultes, qui sont toutes des tubes que l'on connaît par cœur et qui nous rappellent des moments de notre vie. Il fait intimement partie de la vie des Français, même si on ne saurait le réduire à ses chansons, lui qui n'a jamais cessé d'être comédien. L'occasion rêvée de mieux connaître l'homme chaleureux et sympathique qui se cache derrière son image de râleur qui ne sourit jamais sur ses pochettes de disques. Avec nous ce matin, Michel Sardou.
Quelle présentation!
Oui, oui.
Bravo!
Parce que je sais que vous êtes un type, un chic type, souriant, sympathique, mais que les gens, depuis des années,
c'est
que les
prend
gens.
Une baffe.
Mais des années, les gens ont une autre image de vous. Bah, c'est une
C'est une image qu'on véhicule, c'est qu'on se recopie, qu'on se repasse.
Oui, et puis c'est maintenant avec Internet, c'est bien parce qu'ils font des copier-coller.
C'est ça qui est bien. Donc, je m'en fous, ça m'en touche pas une. Je dis tiens, il a recopié tel journal.
Oui, voilà, on sait exactement. Alors, vous entamez le 30 novembre une tournée dans toute la France avec un passage à Bercy le 12, le 13 et le 14 décembre. Et vous sortez donc un best-of, les grands moments. C'était votre désir ou c'est de rassembler comme ça les grands moments, les grands tubes, ou c'est parce que le public vous les réclame sur scène?
C'est un peu ça. C'est un peu le quand un spectacle est terminé, le public vient souvent me dire, enfin ceux qui sont derrière, ceux qui attendent derrière toujours, gentiment. Ils me disent, mais vous avez pas chanté celle-là, c'est ma chanson. Parce qu'ils ont tendance à s'approprier les chansons à un événement personnel.
On s'est connu sur cette chanson.
On s'est connu, on s'est perdu, on s'est retrouvé, tout ça. Bon. La naissance du petit, le mariage de ma mère. Bon. Et donc ça fait partie de leur vie. Et moi, j'ai plutôt tendance à chanter toujours des nouvelles. Parce que je dis, bon, les anciennes, finalement, il y en a marre. Et en fait, je me gourre complètement parce que ce qu'ils viennent voir, ce qu'ils viennent entendre, c'est ce qu'ils connaissent déjà. Alors le jeu que je vais faire là avec les grands moments, c'est de, avec des chansons qu'ils connaissent par cœur, les surprendre. Sans
dénaturer.
Sans dénaturer, évidemment.
C'est tout l'exercice, c'est délicat.
Ça, c'est très compliqué. Ah oui. D'ailleurs, on n'a pas fini.
Comment les réarranger sans les dénaturer?
Voilà, on l'a trouvé. Alors pour certaines, c'est facile. Pour certaines, alors il n'y a aucun problème. Puis pour d'autres, d'un seul coup, on sent que... on va les perdre parce qu'on va enlever la... Alors on a du mal en ce moment, on travaille beaucoup pour mettre au point ça, parce que ma condition c'est qu'à la quatrième mesure ils aient reconnu la chanson. Il faut qu'ils sachent que c'est ça. Alors c'est peut-être pas le même instrument qui va la jouer, c'est peut-être pas le même son qu'il y a 30 ans, 20 ans ou 40 ans, peu importe, mais ils savent que c'est celle-là.
Nous, on a fait une expérience au bureau, on a écouté l'album, et on connaissait toutes les chansons.
Ouais, c'est drôle, hein.
C'est quand même incroyable.
Si, non, il y a Patrice qui a cru que c'était Amel Bent.
Non. Il y a combien de chanteurs, ou chanteuses en France, dont on peut dire, quand on écoute 30 chansons, qu'on connaît toutes les paroles? C'est quand même incroyable d'avoir comme ça réussi à faire 30 tubes.
Ben oui, oui, que vous dites.
On vous engueule pas, en même temps. On vous le reproche pas, mais
j'ai fait de mon mieux.
C'est vrai, on les connaît, on, ouais. C'est incroyable.
On se mettait tous à chanter, c'est drôle.
Oui, c'est drôle.
Même ceux qui sont pas encore sortis.
Oui, j'aimerais bien vous entendre chanter les prochaines, par exemple.
Mais parce que chaque fois, vous dites, dès qu'un album est sorti, je crois que c'est le dernier. Oui. Vous dites toujours ça.
C'est, ça a toujours été, mais c'est toujours ça. J'ai jamais cru que je serais une vedette de la chanson. Jamais.
Mais oui, vous vouliez faire du théâtre.
Je voulais faire du théâtre, je voulais être ailleurs, je voulais faire un autre métier.
Vous le croyez toujours pas?
Et, non, ça va paraître idiot ce que je dis, mais bon, oui, bah, évidemment, je l'ai assimilé, je l'assume. Mais je veux dire, à chaque fois que je sortais un disque, quand je sors un disque, je dis celui-là, il fera rien, quoi.
Moi, je suis sûr que ça va marcher pour vous.
Ça m'a toujours suivi, ça. C'est une superstition, je sais pas, c'est une façon d'être.
Mais et puis, bon, vous êtes toujours là? Enfin, je veux dire, ça marche toujours pour moi.
Ben oui, ça va, ça va.
Si vous pensez chance, ça peut penser ça, non?
Oui, ouais, je suis un peu superstitieux aussi. Donc ça revient maintenant en leitmotiv superstitieux. Ouais.
Alors on va y revenir dans un instant. On va marquer une petite pause et retrouver Michel Sardou qui est un jour prochain près de chez vous.
RTL. À la bonne heure. Stéphane Bern.
Et toujours avec Michel Sardou. Actualité chargée parce qu'il est évidemment partout en France. Ah. Il est à Caen le 28 janvier. Il est au Mans le 25 janvier.
Le best-of de Stéphane.
Et puis, à Toulon le 12 février, à Montpellier le 19 février, à Lyon chez moi le 20 février. Et puis
c'est
à Marseille le 6 mars.
C'est chez vous, ça va être Lyon, un peu petit,
non? Non mais attendez, c'est la Altony Garnier. Ah, tous les Lyonnais connaissent la Altony
Garnier. Même les autres.
Même les autres, oui, absolument. Alors, est-ce que vous dites que vous aimez être sur scène, je pense, Michel, vraiment. Mais vous dites, j'aime mon métier, mais je n'aime pas ce métier.
Oui, oh là, on va rentrer dans un truc sérieux.
Ah, oui.
C'est-à-dire, j'aime chanter, j'aime être sur scène, j'aime être en contact avec le public, j'aime jouer au théâtre, j'aime tout ce qui est vivant.
Oui.
Maintenant, tout ce qui entoure ce métier, toutes certaines personnes que je ne citerai pas, bien sûr, ou l'organisation de ce métier, ou la gestion de ce métier, ou les gérants de ce métier. Bon, là, j'ai pas de contact du tout. On parle pas la même langue du tout. C'est devenu un métier à coup, et non pas à longueur de, il y a pas à longue vue. Or, c'est un métier qu'il faut faire à longue vue. Faut prendre un enfant, voir qu'il a quelque chose, et puis se projeter dans le temps, le laisser se découvrir, le laisser arriver, le laisser évoluer. Et puis un jour, ça deviendra. Pour vous donner un exemple concret, parce que c'est un peu abstrait ce que je dis là, si Brel débutait aujourd'hui, il n'existerait pas. On n'aurait pas Brel. Il n'aurait pas le temps de
mûrir.
Il n'aurait pas eu le temps.
On jette.
Il faut que tout de suite ça marche, tout de suite projeter à Bercy, par exemple. Pourquoi? Elle a 3 heures de métier. Oui, il a 3 heures de métier. Et tout de suite, on le met sur une scène où il faut ramer déjà 10, 15 ans avant de pouvoir les tenir. Bon, c'est ça qui me déplaît un peu. Alors ça fait un peu vieux.
Surtout que vous-même, vous avez, ça a été long.
Les 10 ans normaux qu'on passe à chercher, à se trouver. C'était pas du tout désagréable.
Non.
Je chantais dans les cabarets, je faisais des baloges, je faisais des trucs épouvantables. J'étais dans des galères invraisemblables. On me payait dans des boîtes à chaussures en billets de 5 francs, pas déclaré.
Déjà du travail au noir.
Rien dire, déjà du travail au noir. C'est quand même très agréable à l'époque. Et je faisais. Ce qui fait que, quand le succès est venu et que j'ai dû affronter des salles plus importantes, où là j'avais une responsabilité plus importante, j'avais acquis une base nécessaire où je savais bouger sur scène. Puis j'avais des cours de comédie aussi qui m'aident. Je conseille à tous ceux qui veulent chanter de commencer par faire de l'art dramatique. Ça donne une présence, une façon de se bouger, quoi.
L'album s'appelle Les Grands Moments. Quels sont à vos yeux les grands moments de votre carrière? C'est-à-dire les gens essayent toujours de compartimenter votre carrière. Il y a les années 70 avec le chanteur engagé. Après, on a parlé du chanteur populaire. Je suis sûr que vous le voyez différemment.
Oui, parce que moi, comment vous dire ça, je tronçonne pas. J'ai débuté en 70. Enfin, on a commencé à parler de moi en 71, 72. J'ai eu le pot de faire une chanson qui a bien marché. C'était Les Bals Populaires.
Oui.
Que j'aimais pas du tout.
Mais oui, c'est ça.
Je voulais pas la sortir. Je disais non, c'est pas du tout le truc qu'il faut.
C'est pas dans l'air du temps.
Oui, on faisait des adaptations américaines à l'époque. C'était pas ça du tout. Bon, je sors quand même. J'écoute heureusement mes producteurs. Et boum, ça démarre parce que c'était justement à contre-pied. Ça a été un bon moment, ça, les démarrages comme ça. Bon. Et puis après un trou. un trou parce que je change de style. Je dis, oh, écrire des trucs comme les balles populaires et tout ça, je vais peut-être quand même élever le débat, je vais peut-être faire un petit peu des chansons un peu mieux fouillées, mieux foutues. Et là, je les perds complètement. Parce que c'est le surveillant général, ces choses plus noires. Mmh. C'était des choses plus brelliennes, on va dire. Bon. Là, un bide noir, je peux pas en tourner, ça marche pas.
Elles sont restées dans nos mémoires.
Oui, maintenant, oui, mais sur le coup, bide noir.
Elles sont devenues collecteurs avec
et à l'époque, on prenait les contrats au fur et à mesure. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait la tournée d'été, on signait la tournée d'été, si la tournée d'hiver s'était bien passée. Donc moi, j'arrive en fin de tournée d'hiver et rien. Mmh. Plus rien. et puis, coup de bol. Je sors une chanson où j'ai eu un mal de chien à finir, c'est La Maladie d'amour. Ah. Et là, évidemment,
elle court,
en disant, on a peut-être besoin de vous, c'était
tout le festival de l'achat.
Voilà. Personne n'a jamais rattrapé, d'ailleurs.
Et puis, parfois, les événements se vous aident. Par exemple, les Ricains, juste le jour où De Gaulle...
Oui, ça m'a aidé, pas tellement.
Oui, parce qu'elle ne s'est pas vendue,
d'abord,
mais ça fait
je ne savais pas que c'était une décision de De Gaulle et Bourgoz. Le lendemain, je partais à l'armée. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu le temps de faire de la promo, là.
Non. Bon.
Mais ce qui m'a sauvé, c'est qu'elle a été interdite.
C'est la censure, oui, c'est ça, hein.
Évidemment. Alors les gens se sont dit, putain, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette chanson, c'est interdit, ça doit être terrible, ce qu'ils disent. Ouais. Or, je dis rien, je dis simplement, ils sont venus, ils ont débarqué.
Ouais, et si on serait pas là, on serait en Germanie, on parlerait...
Et si franchement, s'ils n'étaient pas venus, on était mal, on était déjà pas très bien avant qu'ils arrivent, mais là, on était définitivement foutus. Mais ce qui a fait, moi, d'un seul coup, c'est une réputation.
Mais oui, après, on a vu en vous un provocateur, alors qu'en fait, vous l'êtes pas du tout.
Mais non, je l'avais fait parce que ce qui me gênait, c'était l'anti-américanisme un peu primaire, où il y avait le Vietnam, alors je comprends beaucoup de choses, qu'on soit contre la guerre du Vietnam, etc., c'est vrai. On peut débattre de ça, et je comprends tout à fait qu'un homme, qu'un Français puisse dire, on veut pas, bien qu'on y soit passé nous aussi, on sait de quoi on parle au Vietnam, bon. Mais de là... à diaboliser les Américains complètement systématiquement, c'est des salauds, c'est des ordures, alors qu'on a fait la même chose, en moins grand, c'est vrai, mais enfin la même chose. Je dis merde quand même, il y a un peu la reconnaissance du monde, il y a au moins ce merci-là quand même.
Alors je vous propose d'écouter un extrait de cet album. On va écouter une chanson qu'on aime tous, évidemment, La Java de Broadway.
Jusqu'à 12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et oui, nous sommes toujours avec Michel Sardou qui est à Limoges le 8 février, à Nice le 13 février, à Chambéry le 22 février et à Strasbourg le 9 mars. J'adore donner des dates.
Ça vous fait du bien.
Mais oui, j'aime bien parce que
j'ai voyagé.
Je voyage.
Vous êtes détendu.
J'imagine les hôtels, j'imagine les minibars.
C'est secret d'histoire.
On l'a recruté à la SNCF, c'est lui qui deux minutes d'arrêt à la Ferté-Saint-Bernard.
En parlant d'heure, justement, Régis, c'est l'heure du brief, non?
Ah oui, c'est l'heure du brief. Bravo.
L'heure du brief avec Patrice Carmon et Régis Maillot.
Bon, c'est le bilan de la semaine, hein. Ça tombe bien, on est mercredi. Ah oui, alors je dois la vérité à nos auditeurs, hein. On est diffusé vendredi, alors que cette émission est enregistrée mercredi, mais en 2011. Alors je vous parle, Sarkozy est encore président, Valérie Brière-Weller et journaliste, l'a jamais dit vraiment.
Nostalgie.
Oh, c'est méchant.
Oui, c'est méchant.
Alors, puisque c'est le bilan de la semaine, félicitations à Jean-Pierre Bouchard. Oui, Jean-Pierre
Bouchard.
Bah, Jean-Pierre Bouchard, qui, d'après nos recherches, est officiellement le vainqueur du Tour de France 2003. Jean-Pierre avait fini à l'époque 167e, avec 18 jours de retard sur Lance Armstrong. Et d'après l'UDI, Jean-Pierre est le premier cycliste dont les analyses ne révèlent aucune trace de produits dopants. Les seules traces médicamenteuses qu'on a pu relever chez Jean-Pierre, c'est celles d'antidépresseurs. On avait un peu marre. Allez, affaire suivante. Message de soutien. Alberto Contador voulait savoir si c'était possible de récupérer les échantillons d'urine de Lance Armstrong. Il lui manque de la sauce piquante pour assaisonner ses steaks à l'OPO. Tout ça est vrai.
Tout ça est vrai.
On vous croit.
Dans la série Les sourds ont de la chance, si on prenait des nouvelles de Francis Lalanne. Vous savez, ce grand poète lyrique qui vit sans slip et avec des bottes de pêcheur.
Sans slip. N'importe quoi.
C'est lui qui le dit. Hein.
Ah oui, c'est vrai, il nous l'avait dit ici.
Francis a participé mercredi à l'émission Un dîner presque parfait. Vous connaissez Un dîner presque parfait, c'est cette émission culinaire où des gens s'invitent les uns les autres et l'objectif c'est de critiquer celui qui fait la bouffe.
Oui.
C'est scandaleux.
Et de faire la bouffe aussi.
Bah oui, oui. Alors, en général.
J'espère que c'est attaché les cheveux.
Bah, oui, bah en général ça se passe en loose day dans la salle de bain. Il y a du brave type qui a posé quand même une RTT pour te préparer un bœuf bourguignon, une tourte aux champignons, qui a dépensé la moitié de son salaire pour trouver des papayes en plein hiver. Les invités se relaient ensuite devant la caméra pour balancer les pires horreurs sur leur hôte et ensuite ils reviennent à table et disent ah comme c'est bon. Eh bien, j'ai vu l'émission. Mmh. Alors, pour le dîner, Francis a obtenu une excellente note. Il a préparé une queue de cheval. C'était très bon. En revanche, il a récolté un zéro collectif sur l'animation. Et oui, il a chanté.
Oh, merde.
C'est moche.
On va s'arrêter.
Prenons des nouvelles de la grande cantatrice du 9-3, Diams.
Ah oui.
Diams, vous savez, c'est converti à l'islam. Pourquoi pas, hein. Ce qui serait bien, c'est qu'elle se convertisse au solfège.
Quel salaud. Arrête de chanter.
C'est vendredi, c'est saloperie. Ah. Bonne nouvelle pour la rappeuse Walleye, son autobiographie se vend comme des petits pains. Au chocolat, évidemment. 25 000 exemplaires vendus, 30 000 réimprimés pour nous expliquer sa vie. Hein. Manifestement, Diams est surtout converti au marketing. Si on parlait mode. La fameuse marinière que portait Arnaud Montebourg à la une du Parisien Magazine, qu'on a tous moqué, hein, moi le premier, et ben ça fait exploser les ventes des marinières de la société bretonne Armor Luxe.
Armor Luxe.
J'en ai à la maison. C'est une bonne nouvelle. Hein. D'ailleurs, si la présence du ministre a une influence sur la bonne santé des entreprises, Direct 8 devrait l'engager à la place d'Audrey Pulvar pour booster ses audiences. Alors, moi, j'invite Monsieur Montebourg à porter à la une de point de vue, par exemple, une cotte de maille en acier trempé pour relancer les hauts fourneaux de Florange, de poser nu à la une de Géo avec du goudron afin d'éviter un nouveau plan social chez PetroPlus et de porter en couverture de têtu un string ficelle pour aider les ouvrières de
Lojabi, c'est ça,
hein, Lojabi.
Allez, on termine ce petit débrief de la semaine avant de passer à Patrice par un extrait sonore étonnant. Vas-y, Alex. Alors, ce n'est pas la voix de Patrick Sébastien dans un club échangiste interprétant le petit bonhomme en mousse à une dame.
C'est vrai, c'est pas très corporate, ça. Tu balances, toi, hein.
C'est quoi?
C'est une baleine imitant la voix humaine.
Une baleine, oui, qui voulait sortir de son...
Faut sortir le
nageur de son bassin.
Exactement. Ah. C'est un beluga prénommé Nock qui est mort il y a 5 ans et qui a cherché à entrer en contact avec les humains en imitant leur voix. Ouais. D'ailleurs, pour vous dire toute la vérité, depuis ce matin, c'est pas Stéphane Bern qui vous parle, mais un teckel, pas de cours, prénommé Kiki la saucisse, que nous avons nous-mêmes dressé depuis sa naissance et qui pallie à vos absences régulières. Bon allez, vas-y Kiki, dis quelque chose aux auditeurs.
Merci Régis, merci.
C'est la baleine d'Orangère, en fait.
Et on retrouve maintenant Patrice Carmoz.
Oui, alors... vous savez qui avait dit, quand le moment est venu, l'heure est arrivée, c'était Raymond Barre. Et alors, comme chaque année, ça fait 36 ans que ça va arriver, dans la nuit de samedi à dimanche, allez, paf, on rechange d'heure, vous savez, le changement d'heure. Alors, évidemment, on a des moyens mnémotechniques pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, là, c'est simple. Heure d'hiver, octobre, comme recul. Alors que l'heure d'été c'est avril, comme avance. C'est un moyen mnémotechnique à la con.
Oui.
Parce que en réalité le passage à l'heure d'été ça se fait pas en avril, ça se fait en mars. Oui. Mais comme en mars il y avait A et R, avance et recul, on peut pas le faire, ça marchait pas, voilà. Donc avec on l'a fait avec avril.
Attendez, quand il sera 2h du matin,
oui, il sera 3h.
Il sera 3h.
On en recule, il sera qu'une heure.
Oh là là,
il sera qu'une heure.
D'accord.
Non, on va reculer.
Donc à 3h, il sera 2h.
À 3h, il sera 2h. La seule vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec l'heure d'hiver, il fait tôt plus tard ou tard plus tôt?
Merci beaucoup Patrice, merci Régis. On va retrouver Michel Sardou dans un instant. On marque une petite pause, à tout de suite.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et oui, vous croyez tout connaître de Michel Sardou, mais peut-être pas. Alors une chose est sûre, il est le 12, le 13 et le 14 décembre et sur la scène de Bercy à Paris.
Ah,
et puis il y a toute une tournée dans toute la France. Il y a cet album qui est sorti, qui est fabuleux. C'est un double CD qui s'appelle Les Grands Moments. C'est un best-of, c'est vraiment...
Le meilleur du meilleur. Un florilège.
C'est tout ce qu'on aime.
Et avec quelques versions 2012.
Quelques versions 2012, et remasterisées, réenregistrées, réorchestrées. Mais c'est le moment des rumeurs du net.
À la bonne heure, les rumeurs du net.
Alors, cher Michel, il paraît que c'est Jean Gabin qui vous a appris à tenir les emmerdeurs à distance.
Il a l'air de
c'est pas vraiment comme ça. Ça s'est pas passé comme ça.
Comme ça.
Mais c'est en l'observant, que j'ai vu comment il procédait. Il s'installait quand il était seul dans un restaurant. À l'époque, les studios, c'était à Joinville. Les studios de cinéma étaient à Joinville. Tous les films se faisaient en même temps. Là-bas, les acteurs se retrouvaient sur une espèce de place où il y avait des restos. Et le public aussi pouvait rentrer. Et il voulait pas qu'on l'emmerde. Donc, il adorait la bouffe. Il fallait pas le déranger.
Oui, surtout à l'heure du repas,
À la gamelle, ça fallait pas. Et donc, il faisait la gueule. Il faisait bougon. Ça, c'est les tenait à distance. Ils disaient, celui-là, faut pas aller l'emmerder. Alors, quand je vais dans un truc comme ça, et que je suis tout seul, je me fous dans un coin le plus reculé. J'ai l'air de faire la gueule. Quoi. Je me joue.
D'où cette réputation. Voilà. Deuxième rumeur. Vous seriez infernal avant de monter sur scène.
Faux.
Non ?
Pas faux. J'ai rien. Il ne se passe rien pour moi. Enfin, j'ai des copains dans la loge, on discute, on parle.
Pas de stress particulier.
On parle de tout. Non. C'est les 15 secondes avant de monter sur scène où je demande à être seul. Mais vraiment les 15 secondes avant de faire le pas qui fait qu'on est encore dans la lumière. Mais que ce soit au théâtre ou au music hall, dans ma loge, vous pouvez venir, on parle de tout, on déconne, on boit un coup, on a le droit de fumer, il n'y a pas de problème. Bon. Je suis pas du tout anxieux.
Ah
bon? Non.
Bien.
Non.
Troisième rumeur. Beaucoup de gens à Marseille sont persuadés de vous avoir connu petit alors que, en fait, vous êtes né à Paris.
Oui. C'est vrai. Il y a même un cabanon qui est à la Belle de Mai, où j'ai été très petit avec mon père et ma mère. On allait passer nos vacances là-bas. Il l'appelle toujours le cabanon des Sardous.
Ah oui.
J'ai voulu le racheter. J'ai été voir le. C'est un tout petit truc. Hein, c'est un juste de quoi mettre un pointu. Au-dessus, il y a une chambre, une cuisine, ouais. Salle à manger. Ouais. Quoi, c'est tout. Hein. Et le type dit non, je le garde. Il m'avait pas reconnu le mec. Il me dit c'est le cabanon de Sardou. Sinon, il dit oui, c'est le cabanon de Sardou. Je le garde. Il n'a pas fait gaffe.
Il confond avec la famille Sardine, peut-être.
Vous avez autre rumeur. Vous avez toujours vécu au-dessus de vos moyens et votre banquier est plus inquiet que vous de votre avenir.
Oui. C'est vrai. Surtout en ce moment, d'ailleurs. Surtout en ce moment.
Parce que vous êtes producteur en plus de votre. En partie producteur de votre.
Ah, moi je fais tout. Je suis producteur, metteur en scène, acteur, patron, employé. Tout. J'ai toutes les charges sur la gueule.
Vous achetez des fourrures, des bijoux.
Non, j'ai une passion, c'est les chevaux.
Oui. Eh ben, c'était ma rumeur suivante.
Ah, vous achetez des chevaux.
Vous seriez un passionné de chevaux et même propriétaire.
Propriétaire et éleveur.
Éleveur.
Éleveur. Maintenant, je suis agriculteur. Je suis passé de la culture à l'agriculture.
Ah, vous allez avoir des subventions de Bruxelles.
Toujours le trop, non?
Non, il y a du trop. Il y a du trop. J'ai une tempête de blary formidable qui m'a réussi un été fantastique. J'ai acheté un petit qui va être aussi un bon. Et j'ai le reste de l'obstacle.
Ah, d'accord.
Et depuis ce matin, j'ai un petit de Mr. Sydney.
Ah oui, qui est un champion.
Ah oui, ça c'était mon rêve.
Vous n'avez pas un tuyau pour la course de cet après-midi?
Non, non.
Moi je cours pas, mais.
Vous avez un cheval,
c'est ça? Oui, un étalon, un des meilleurs étalons du monde.
Mais bien sûr,
c'est vous devriez vous y connaître en étalon, Stéphane. Autre rumeur.
Bonsoir à tous.
Vous n'aimeriez pas les longues tournées à cause, vous dites, des minibars et des plafonds des Sofitel.
C'est vrai.
Ça m'a fait marrer parce qu'il y en a d'autres, les moquettes.
C'est les moquettes, voilà.
C'est-à-dire, une fois que le spectacle est terminé, on voit que c'est vachement marrant et tout. C'est fini, ça, les soirées après le spectacle. Oui, parce que d'abord, les restos ferment.
Mmh. Oh, oui, c'est
vrai. Attends, il n'y a plus rien.
C'est vrai qu'il n'y a plus rien.
À partir de 10h, c'est bonsoir, au revoir. On a la fameuse salade gourmande préparée d'avance dans la chambre, ou si c'est pas la salade gourmande, c'est l'assiette froide. Bon, le minibar. Les films à la télé, on les a déjà vus 20 fois, et on est sur son pied, on regarde le plafond, puis on attend que...
Tout se perd, il n'y a plus de troisième oreiller.
Il n'y a pas de troisième oreiller.
Il n'y
a pas ce temps-là.
Elles sont toutes prises.
Elles arrivent avec des gardes du corps, maintenant.
Toutes prises.
Allez, dernière rumeur. Il paraît que votre épouse Anne-Marie ne veut pas que vous vous fassiez retoucher.
Ah oui. Alors ça, je vais vous dire que là, c'est, si jamais j'ai le malheur d'aller en cachette, me faire une infiltration de je sais pas quoi, alors là, elle se tire dans la seconde.
Ah oui. Ah oui, non. Et pour, par amour pour elle, vous avez arrêté de fumer.
Et elle, oui, parce qu'elle toussait. Alors.
C'est vous qui fumiez, c'est elle qui toussait. Oui. Bravo. Il a bien répondu aux rumeurs d'Inette. Et je vous propose d'écouter. Bah, c'est la chanson du film James du nouveau Bond. James Bond, Skyfall. Génial. On écoute Adèle, génial.
Et le film est sublime.
À la bonne heure.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Tout à l'heure.
Et toujours avec Michel Sardou, il y a à la fois l'album, le double CD, Les Grands Moments, et puis il y a cette tournée du 30 novembre au 19 mars prochain avec un arrêt à Bercy, 12, 13 et 14 décembre. Et puis il y a un livre dont on parlera tout à l'heure par Meloul qui a fait des photos, qui vous suit depuis des années, ça s'appelle Enchantant, magnifique album, hein, publié chez Flammarion, très très belle. Et puis avec les textes de vos chansons, avec plein de... C'est vraiment un très beau cadeau pour les fêtes de Noël qui approchent. Je vous propose maintenant, et bien ces cadeaux aussi, Stéphane de Groot et son billet du jour.
Le billet du jour, Stéphane de Groot.
Opération vérité ce matin sur RTL. Brisons la magie de la radio et révélons les préparatifs secrets de l'émission. Eh oui, cher Michel, au risque de vous décevoir, à l'origine, nous avions prévu de vous accueillir d'une façon qui sied à votre rang en délocalisant le studio sur les rives du Connemara pour une émission qui se serait appelée At the Good Time. Avec Stephen Byrne, Pat Camoes, Charlotte Boutwolf, Régis Maillotte. Alors, Stéphane avait gonflé son canard. Moi, j'avais gonflé Stéphane. Patrice avait acheté les merguez. Régis avait sorti son plus beau monokini. Et Charlotte avait mis sa Charlotte, en fait. Et puis, finalement, arrivé sur le quai du métro, on a réalisé que nos cartes Navigo s'arrêtaient à l'Île-de-France. Retour donc dans notre studio de la rue Bayard, sans canard, ni merguez, ni conne, ni mara d'ailleurs, afin de vous livrer quelques messages. Bonjour Monsieur Sardou, ça tombe bien, il est là. Je vous écris de la part de mon papa, qui est soudainement devenu fan de vous depuis mai dernier. En effet, depuis qu'il a su qu'on allait le taxer à 75%, il ne cesse de fredonner « Ah, fric, adieu !» Cher Michel, comme vous, je suis issu d'une grande famille d'artistes. Mon père était l'étrangleur de Poissy, mon grand-père l'égorgeur de Vélizy, et mon fils purge actuellement une peine de 30 ans pour avoir mangé ma femme.
Oh.
Ah, les saltimbanques.
Salut.
Bonjour, je suis Michel Sardur, le double maléfique de Michel Sardou. On n'avait pas encore reçu ce genre de courrier, il fallait que ça tombe sur vous. Las d'être resté dans son ombre depuis tant d'années, je tenais simplement à vous annoncer la sortie prochaine de mon pire off, qui comprendra certains de mes plus grands insuccès comme être une pouffe. Je ne suis pas mort, je dors, foutez-moi la paix. Ou appelle-moi encore France et je te pète la gueule.
Être une pouffe.
Énerve le monsieur. Bonjour Michel. Soyez-vous libre samedi. Nous fêtons les 87 ans de ma belle-mère et je voudrais que vous veniez chanter pour elle, car je suis sûr que ça lui ferait un énorme choc de vous voir en vrai. Comme elle est cardiaque et nous avons besoin de liquidité pour faire la toiture, ça tomberait bien. Cher Michel, je voudrais vous dire combien je vous admire. Vous avez toujours été pour moi une lueur dans la grisaille du quotidien, un phare dans la nuit, un soleil à travers les nuages, une étoile dans un ciel d'encre, une lampe économique dans un cabanon de jardin, un lustre... Oui, ok, on a compris, je crois, l'idée. Bref, vous êtes pour moi le Michel de tous les Michel, comme Alain Delon et le Alain de tous les Alains. Jean-Paul Belmondo, le Jean-Paul de tous les Jean-Paul. Lino Ventura, le Lino... Ok, bon, en gros, elle vous aime bien, quoi. Lettre suivante. Cher Michel, je vous aime beaucoup. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que vous disiez parfois un peu n'importe comment. On ne dit pas le France, mais la France. Ce serait comme l'Amérique ou la Brésil. Ça rime à rien. Alors que le Hollande, par contre, ça marche super, mais je doute que vous vouliez en faire une chanson. Bon, allez, une dernière, en espérant qu'elle relève un peu le niveau. Datée du 14 octobre dernier. Tiens. Bonjour. Je voulais juste dire à mes parents que je pars. Je les aime, mais je pars. Ils n'auront peut-être plus d'enfants ce soir. Non, non, je ne m'enfuis pas, je vole. Signé Félix Baumgartner. Et voilà. Mais vous en faites décoller des carrières, Michel.
C'est fini. Stéphane de Groot. On peut réécouter sur rtl.fr. Oh, c'est drôle. Bon, et ben maintenant qu'on a bien...
On s'enfuit pas, on vole, on va faire une petite pause.
Comme quoi, on les connaît tous, hein, oui. Toutes les chansons de Michel Sardou.
Quand ma maman entendait cette chanson, elle pleurait. Parce
que pourquoi elle pleurait?
Parce moi que aussi, c'était elle m'émeut
le signe que je quittais la maison, que je m'en allais, que je volais. Donc,
Non, c'est vrai qu'elle est émouvante.
Il faut partir, justement.
on part, mais on revient, parce qu'il y a Eric Dussard qui arrive.
Eric Dussard, et on va atterrir.
Oui, ça, c'est sûr.
Avec la télé. À tout de suite.
la bonne heure.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Michel Sardou, dont on partage les meilleurs moments en chanson, mais on retrouve tout de suite les pires moments en télé avec Éric Dussard.
Oh, c'est bien vendu.
À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Et on commence avec une bien triste nouvelle.
Ouais, je vous préviens tout de suite, c'est pas Guéguet ce dont je vais vous parler, hein. C'est même un véritable drame. Enfin, je pense que vous êtes déjà tous au courant parce que ça fait la une de tous les JT ces derniers jours. C'est une affaire véritablement bouleversante dont nous a notamment parlé Jean-Pierre Pernaut.
La cour administrative d'appel de Nancy a finalement décrété que l'Angélus de l'église de Rietveer devrait sonner à l'avenir à 7h au lieu de 6h.
Ouais, c'est dur à accepter.
Ouais, hein.
Demain, vous allez chialer, va nous révéler que les ordures à Chartres seront désormais ramassées à 8h au lieu de 7h30. C'est ça les infos de Jean-Pierre, des chocs.
Il n'y a pas les pharmacies de garde.
Non, mais ça, ce sera une édition spéciale. Hein. Mais il aurait dû nous préparer quand même avant d'en parler parce que c'est tellement dur d'entendre tout ça. D'ailleurs, lui-même à cause de ça. Après, il était pas bien. Alors, il a dû prendre une petite gnôle pour se réquiquer.
Priez pour eux, disait hier matin. Je disais hier matin un journal que j'avais d'ailleurs cité. Et ça a mâché les mots. Il avait pas mal neigé en montagne. Ça s'est radouci. Ça a fondu à basse altitude. Dans les Alpes maritimes.
Ouais, les Alpes maritimes en Provence Palpe Pote d'Azur, comme chacun le sait, tiens Jean-Pierre. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'en fait, juste avant l'antenne, il s'était fait un apéro avec ce sénateur socialiste, qui était lui aussi dans un très bel état, sur la chaîne publique Sénat. Alors, heureusement pour lui que dans l'Assemblée, là, c'était plus public sénile qu'autre chose, et que tout le monde dormait, parce que, alors, on n'a rien capté ce qu'il a raconté. Lui non plus, d'ailleurs, je pense qu'il ne sait même pas ce qu'il a dit.
L'indemnité, donc, pour incapacité, donc, les interruptions liées à la fiscalisation,
n'était pas
imposée. Donc, oui, je ne veux pas aller trop loin.
Bon, non, pas trop loin. À mon avis, tu bouges même pas de ton siège. Tu prends pas la voiture. Si tu souffles dans le ballon, tu vas t'envoler avec.
Hein. Lui, c'est parler clairement de finances publiques, Eric.
Une chance, puisque c'est son boulot. Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Alors lui, par contre, quand il a évoqué le sujet sur la chaîne parlementaire, il a été on ne peut plus clair.
Nous sommes en train de refondre entièrement le paysage de nos finances publiques. Nous en changeons la forme et la contenu. Contenu. Rien moins que ça.
Bah oui, c'est vrai que c'est énorme de changer la contenu, hein. Autant ils nous auraient changé juste le contenu, bof, mais la contenu. Ça, c'est fort. On voit du coup la travail de fond que ça exige, hein. C'est comme cette jeune artiste que nous a présenté l'émission Les Maternelles sur France 5. Elle aussi, elle a vraiment soigné la contenu, la message de son dessin. Et du coup, elle a crayonné quelque chose, alors vraiment très poétique, trop mignon. Un dessin d'enfant, quoi.
Angeline a aussi un certain talent artistique.
C'est papa en train de faire pipi sur mémé.
Qu'est-ce qui se passe? Papa fait pipi sur mémé?
Oui.
Ah, et comment ça s'est passé?
Bah, c'est pour
te fou. Oui, bon, envoyez donc les services sociaux chez eux. Je crois qu'il y a un petit problème. Alors, sauf à considérer que ton papa est Gérard Depardieu, c'est quand même pas tout à fait normal qu'il fasse pipi sur mémé, hein. Je vois pas trop ce qu'elle a voulu nous dire par là.
Non.
C'est comme ce candidat du dîner presque parfait sur M6. Alors, amoureux de la nature, moins de la langue française apparemment. Écoutez, il nous a mitonné une de ses phrases.
Souvent, soit après l'apéritif, soit pendant le coucher du soleil, je m'assois sur mon petit banc et puis je regarde le massif de l'Épine. C'est là, je pense, où la nature a commencé à me rentrer dedans.
Ah ouais. La nature, toi, elle te rentre dedans. Le gars, dès qu'il passe près d'un buisson, hop, ça lui rentre dedans. Ouais. Non, mais c'est une pathologie assez douloureuse quand t'es dans une palmeraie. Hein. Jacques, là, ça devient compliqué.
C'est massif de l'Épine.
Et on termine, Eric, avec une autre émission pour les passionnés de cuisine.
Oui, hier soir, sur TF1, il y avait Masterchef. Vous savez, Masterchef, avec des épreuves de plus en plus compliquées. Ils ont eu faire un couscous en parachute, une fondue accrochée par les pieds. Et maintenant, bah, on leur demande des choses encore plus pointues.
C'est une épreuve d'équipe, mais sans équipe. C'est une épreuve d'équipe, mais sans équipe.
Ouais, je vois bien le concept. Ouais. En fait, c'est une sport de sport collectif, mais tout seul, quoi. C'est comme l'équitation sans cheval ou la réflexion sans cerveau. Hein. C'est pas évident.
Pas évident. Merci, Eric. À demain.
Bon week-end. Bon week-end. Laissez-moi tranquille maintenant. Oui. C'est bon.
C'est vrai, vous y avez droit.
RTL.
11h, 12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et oui, toujours avec Michel Sardou dans À la bonne heure pour à la fois le double CD, les grands moments, et puis cette tournée qu'il mène dans toute la France. Évidemment, les dates seront sur le site www.rtl.fr, parce qu'après, je vais me faire moquer pour donner toujours des dates.
Oh, allez-y.
Déjà, Bercy à Paris, 12, 13 et 14 décembre. Et puis Périgueux, le 9 février. Montpellier, le 19 février. Et puis Nancy, le 13 mars. Voilà. Et Lille, 15 et 16 mars. Et puis, il y a ce livre aussi de Melloul qui vous connaît bien. Il vous suit de, Richard Melloul, vous suit depuis longtemps, non?
Ah oui, des années. Hein. Le début, pratiquement.
Il y a des photos de vous vraiment, je sais pas, prise au vif, vous êtes là, vous n'aimez pas poser. On voit, vous ne devez pas aimer tellement les photos, d'ailleurs.
Non, pas tellement. Mais avec lui, ça me dérangeait pas du tout parce qu'on le sentait pas. Il était très, très discret. Il était dans son coin et piquait. C'était des photos de famille, souvent. Des photos comme si c'était des photos pour nous.
Mm-hmm.
Et puis en fait après il a fait ça devenait des pochettes de disques, ça devenait des un livre comme ça.
Mais c'est vrai que par superstition vous n'aimez pas que sourire sur une pochette de disques, vous avez l'impression que si vous
non souriez... je sais pas, c'est le côté pose. Ne tu pas sourire un peu?
Oui, c'est
chier. Non, je ne vais pas sourire un peu. Prends comme ça, ou prends vif en marchant dans la vie. Mais le côté derrière un fond blanc. Regarder le truc et sourire. Tu dis, merde, bon, on n'est pas chaud, quoi.
Non. Alors, c'est le moment de la conférence de presse.
La conférence de presse.
Voilà, c'est ouvert pour toutes les questions. Les uns les unes.
Vous avez... par exemple, tout à l'heure, vous parliez de chevaux. Vous en élevez? Est-ce que vous montez?
Ah oui.
Donc vous montez régulièrement?
Régulièrement, non. Non, plus maintenant. Mais j'ai beaucoup monté.
D'accord.
Charlotte monte, c'est parce que...
Surtout en Camargue. J'ai commencé en Camargue. En Camargue, j'ai commencé à monter. J'ai appris en Camargue.
D'accord.
Ils ont c'est des selles un peu spéciales.
Oui, absolument. Ouais.
Un petit peu spécial.
Charlotte, elle monte à cru. Vous avez vu, ces derniers jours, il y a des reliques de Serge Gainsbourg qui ont été vendues, notamment des listes de courses, des notes qu'il laissait à sa femme de chambre.
C'est pas qu'il
détonne. Des choses à faire. Vous trouvez ça bien qu'on vende comme ça que des intimes et ramasser tout ce qu'il trouvait chez lui et qu'il vende ça aux enchères?
Je trouve ça nul, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, au fond. Ils ont fait les poubelles, quoi. Les poubelles, ils vendent, bon.
Mais ça se vend bien, visiblement.
Bon, ah bon?
Oui. Vous-même, vous gardez tout, ou vous êtes plutôt...
Moi, j'ai tout. Ils vont en faire du blé, ils vont en faire du blé. Moi, j'ai tout.
Il vous reste pas un vieux mouchoir, là? Il vous reste pas un vieux mouchoir?
Non, rien du tout.
C'est drôle parce qu'on vous imagine conservateur, mais en fait, pas du tout.
Pas du tout, non.
Vous gardez rien?
Je garde rien. Je suis pas du tout attaché aux choses. Je sais pas combien de maisons, parce que je déménage tous les 3 ans depuis que j'ai les moyens d'avoir une maison. J'ai jamais de regrets. J'ai pas de...
Tous les 3 ans, mais on voit bien que c'est pas vous qui changez les rideaux, hein.
Non, mais ma femme m'a mis le holà, là, parce que quand même. En 13 ans, on a déménagé 7 fois.
Ah oui?
Ouais. Elle en a marre, là.
Ouais, je comprends.
Elle a envie de s'installer. Ouais. Je comprends. Ouais. D'autres questions?
Oui, moi, Patrice. Bon, non, vous avez dit quelque chose. Je crois que c'est dans le livre que les années 2000, vous les imaginez pas comme ça. Vous voyez, c'est vrai qu'on imaginait des voitures qui volaient, des trucs comme ça.
Bon, il y avait le côté enfantin.
Vous dites au fond, c'est un siècle extrêmement violent. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération a raté quelque chose au fond, enfin, raté l'avenir tel qu'il aurait dû être?
Je sais pas ce qui va pas marcher. J'en sais rien. Mais je trouve un peu bizarre que dans ces années 2000, justement, dans ce nouveau millénaire là, il y a encore autant d'emmerdes, autant d'angoisses, autant de peur, autant
de haine,
autant plus qu'avant, même. De trucs où on se dit, mais où on est là, on est quand même en 2000, on n'est plus au...
C'est ça, comme si on n'avait rien appris, quoi.
Ouais, comme si on n'avait rien appris. En revanche, moi, je suis sûr d'avoir eu une jeunesse beaucoup plus marrante que ceux qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui. Il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas, bon, on roulait vite, on buvait, on faisait l'amour comme on voulait, il n'y avait pas ce danger, on pouvait fumer, là j'ai un appareil.
Alors oui, il faut le dire, c'est intéressant, Michel Sardou a une cigarette électronique, il y a de la vapeur d'eau, voilà, et c'est pareil que ça marche très bien.
Faut dire aussi que ça fait près d'un mois que j'ai pu toucher une cigarette.
Mais c'est super quand même, ça mérite le...
Mais surtout au prix où sont les cigarettes,
bien sûr,
on fait une sérieuse économie.
Vous écoutez quoi chez vous le soir? Voilà, c'est intéressant. Vous écoutez jamais, par exemple.
Vous ne vous remettez jamais.
Et votre femme vous met pas... Non, d'accord.
Je vous écoutez Laurent Voulzy en regardant vers le pays de France.
À la bonne heure.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et c'est le moment où, en présence de Michel Sardou, eh bien, la température du studio va monter parce qu'on va retrouver celle qui est...
Un thermomètre vivant.
Ça reste correct, hein, c'est de l'info.
Je ne sais pas, j'ai pas lu votre texte.
C'est de l'info, c'est de l'actu.
Voici Charlotte Gouteloup.
Charlotte Gouteloup est dans l'air du temps, à la bonne heure.
Régis, vous avez raison, je devrais peut-être lire ces textes avant.
Silence, c'est mon tour. Bonjour à tous.
Déjà pour corriger les fautes.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une tendance en plein boom. Ça va peut-être vous surprendre un peu, mais elle existe bel et bien. C'est le mommy porn ou le mom porn.
Oh non,
littéralement dans le texte, du porno pour maman. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Vous savez,
livre,
non,
là.
C'est pas fini, ça. Le bouquin, merci Michel Sardou, Fifty Shades of Grey, qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires depuis sa sortie aux États-Unis en 2011. Un livre très chaud, je sais pas si vous l'avez lu, plutôt rose.
Je ne dévoilerai pas mes goûts personnels,
mais je peux vous dire que...
J'ai même pas ouvert le sopalin, moi.
Tu sors immédiatement. Les 40 millions de lectrices qui ont lu ce, enfin, les 40 millions de lectrices ont adoré. C'est vrai qu'il y a des passages
sadomaso.
Mais laissez-la nous parler de sexe. Allez-y, Charlotte. Bon, le livre raconte l'histoire de Christian Grey. Alors, Christian, il est beau gosse, il est milliardaire. Bah oui, déjà, ça s'est excité, hein. Son truc à lui, c'est de ligoter sa jeune étudiante, Anastasia, de l'attacher au barreau du lit avec des menottes, de lui bander les yeux et de lui susurrer des mots coquins, de lui fouetter les fesses avec une cravache, de lui coincer les seins, je continue ou pas?
Ouais.
C'est vrai, ça devient intéressant. Alors, le beau Christian
Tant
Grey...
Tant que vous faites du bien, ça nous va.
Il utilise toutes sortes d'accessoires pour assouvir ses fantasmes. Et justement, c'est là qu'elle est là. Elle est la tendance, c'est ça. Le roman a considérablement boosté les ventes de sex toys. Je regarde, je vois Michel Sardou qui me fait les gros yeux. Je continue le papier. Ouais, à Londres,
mais
à Londres.
C'est nul ton livre. J'ai lu.
C'est un livre pour les nanas, pour les femmes. Nous, ça nous émoustille, on aime bien ça.
Julie de Marquis de Sade.
Merci pour votre tendance. À Londres,
les villes de grande
solitude. Il y a Coco de Mer. Coco de Mer, une boutique spécialisée très réputée. Une boutique érotique. Eh bien, la première semaine de juillet, semaine de la sortie du bouquin, cette boutique coquine a vendu, attention, 904 boules de geisha au lieu de 120 en moyenne.
On fait quoi avec une boule de geisha?
Vous expliquera en antenne.
On peut en mentir.
Alors, pour les mères de famille françaises qui vont lire le bouquin, d'accord, et qui vont peut-être être un peu émoustillées, et qui seraient gênées à l'idée de pénétrer dans un sex shop, c'est vrai, ça la fout toujours un peu mal. Pour s'acheter des boules de geisha, il y a un système D. Alors, le système D, 1, vous pouvez prendre des balles de golf. Ou mieux encore, des cochonnets de pétanque.
Oh,
et alors,
non.
C'est pas la même chose.
La marque Obut.
Oui, Obut.
On a sorti des fluos, c'est génial, on les voit la nuit.
Bon. Mais dans les boules de geisha, pardon, Charlotte, ça bouge à l'intérieur.
Oui, écoute, on va pas entrer en détail.
Fais-toi
filer un coup de main,
Alors,
j'ai pas fini. L'apparition du roman a également considérablement augmenté les ventes d'un autre accessoire, c'est le kit bondage. Pour débutants.
Ah.
Christian Grey adore ligoter Anastasia, j'adore. Là encore, système D pour ne pas subir le regard inquisiteur de la caissière du sex shop.
On prend du fil alimentaire.
Un simple antivol à vélo, vous savez, les très fins, là, ceux avec des spirales.
Oui, je vois bien, oui.
J'ai testé. Ça marche très bien. Stéphane, ça marche aussi avec la laisse du chien. Pour sortir, virgule, vous avez bien une laisse cloutée.
Mais, bah oui, c'est moi qui l'emporte.
Je continue. Christian adore fesser son étudiante avec une cravache. Là encore, nul besoin de vous inscrire au poney, de vous déplacer. Une bonne tapette à mouche fera l'affaire. On croirait pas comme ça, mais une tapette à mouche, ça peut donner.
Ça va être fini sur les séances avec vous.
Vous
êtes obligé de vous caresser pendant que vous parlez.
Charlotte, vous voulez dire la bagatelle avec vous, c'est comme dans le livre, mais juste tout est un peu moins bien.
Utilisez votre... Oh, vous êtes gonflé, vous n'en savez rien d'abord.
Je ne sais pas.
Utilisez
je...
votre cuisine pour vos fantasmes, c'est un peu ça.
40 millions de lectrices, je suis désolée, c'est quand même bien d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Ça n'a pas fait d'effet à Michel Sardou.
Je suis d'accord avec Michel.
Moi, ça m'a un peu émoustillé. Bon, on continue.
Mais ça va vous émoustiller. Donnez-nous le téléphone de votre mari.
Oh non, il vous embrasse d'ailleurs. Dernier fantasme.
C'est bien le problème.
D'ailleurs,
il ferait mieux s'occuper de vous.
Un de ses fantasmes.
Mais il n'arrête pas d'appeler parce qu'il est attaché. Vous pouvez le détacher.
Fantasme de votre mari.
Ton mari.
Christiane Grez, ce qu'il aime aussi, c'est de verser de la cire chaude sur le corps de son étudiante. Ouais. Inutile, ouais, mesdames, de vous déplacer dans un endroit mal famé. Une bonne vieille bougie diptyque fera l'affaire.
À 50 euros la bougie.
Ça brûle quand même. Hein. Chaud devant, chaud derrière.
C'était Charlotte Gouttelot.
Franchement.
Ça l'a pas vacciné, Roselyne. Hein.
Enfin, en tout cas, ça permet de faire parler de son émission avec
personne ne regarde.
On en parle, on en regarde.
Parce qu'elle a lu des extraits, et c'est vrai.
Des extraits un peu chauds. Ouais. Non, mais c'est pas porno, c'est érotique. Non,
c'est pas porno. C'est tellement mieux avant. Devil et Mrs. Jones.
Oui.
Ça, c'était formidable. Ça, c'est un chef-d'œuvre.
Voilà, ça, tu vas regarder.
Pendant que vous parlez de sexe, on va marquer une pause, Stéphane. Qu'est-ce que vous en pensez?
On parle pas de littérature.
Pendant que vous parlez d'accessoires, faisons une pause.
Je prends une douche et je reviens.
Et vous mettez votre casquette de psy, dans une seconde.
RTL.
Toujours avec vous. RTL. À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et toujours avec Michel Sardou pour sa tournée dans toute la France jusqu'au 19 mars. Bercy, 12, 13 et 14 décembre. Et puis cet album magnifique, Les Grands Moments. C'est le moment de l'heure du psy, quand même.
L'heure du psy. À la bonne heure.
Après l'histoire de cul, oui, le psy, ça va être grave.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vient en vous de nostalgique?
De nostalgique. Bah, la chanson d'abord, c'est la nostalgie. La poésie, c'est la mélancolie, on va dire. Et la chanson se repose sur la nostalgie, en général. Mais en moi de nostalgique.
Les boules de Grisha, peut-être.
Ah ouais. Peut-être.
Vous avez raté comme ça. Vous avez pas raté.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en vous de négatif ou au contraire, vous êtes toujours positif?
Je suis pas à me plaindre tout le temps, si vous voulez. Mm-hmm. L'optimisme l'emporte sur le pessimisme. Mm-hmm. Je me dis, bon, c'est un sale moment à passer, par exemple, mais ça va passer.
Mm-hmm. Voilà. Dans quelques minutes, on vous lâche. Qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas devenu chanteur?
Bah, tout à fait. Au début, j'avais des velléités de devenir un chirurgien. Mais j'ai pas tenu la route.
Non.
Non.
Après, il y a eu clown et pilote de chasse aussi, j'ai vu.
Ah oui, c'est pilote de... Je suis colonel de l'armée de l'air.
Pas mal, ça.
Ah ouais. Colonel de l'armée de l'air.
Ouais.
Ah
oui. Ça vous embouche à quoi, Stéphane?
Oui,
hein.
Et d'ailleurs, deux.
Si vous aviez à revivre votre passé, est-ce que vous changeriez quelque chose de votre carrière?
Oui, je me marierai pas à 18 ans, par exemple.
Et un détail de votre physique?
Un détail de mon physique?
Non, c'est trop intime, ça, on veut pas savoir.
Non.
Il n'a pas le droit.
Non, il n'a pas le droit. J'ai pas le droit. Très bien. Allez, on termine sur la question rituelle.
À la bonne heure, les coups de gueule et coups de cœur de l'invité.
Alors, si vous voulez bien, Michel, il me faut un coup de gueule et un coup de cœur. Une chose qui vous a énervé et une chose...
Ce qui m'énerve en ce moment, c'est quoi? Bah, c'est ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je comprends pas à la télévision, de par la politique, je parle, la politique. Je sais pas à quelle sauce on va être mangé, on entretient un brouillard, très épais sur les décisions qu'on prend pas, qu'on va faire une commission qui va étudier le problème, qui après on en fait une deuxième qui va reporter en février. Mais on est là. Tout de suite là, maintenant là, dans les commissions, alors on va faire une grande conférence à tous ensemble, on va dire
on va en discuter,
on va tous s'entendre, on va en discuter, puis ça va bien marcher, puis ça marche pas, donc on en refait une deuxième, ça j'en ai ras le bol de ça.
On va se quitter sur une note positive, un coup de cœur.
Coup de cœur, c'est ma femme. Ma femme.
Ouais. C'est joli, ça.
Mon coup de cœur, je le donne à ma femme, qui est toujours à mes côtés, toujours là, toujours pleine d'humour, mais en même temps très, très, très observatrice, qui se mêle pas de ma carrière du tout, pas du tout. Mais qui en même temps s'occupe de tout, mais je le sais pas. Voilà.
Mais écoutez, on l'embrasse.
J'avais avant.
Et on remercie Michel Sardou de sa gentillesse d'être venu nous voir dans La Bonne Heure ce matin sur RTL pour nous parler d'abord des grands moments. C'est un double CD. Il est presque souriant sur la pochette. Ouais, c'est vraiment.
Je non plus, mais.
Et non, mais c'est pas mal. Il est naturel, quoi.
Absolument.
Et puis il y a ce livre Sardou, par Melloul. C'est enchantant chez Flammarion. Et n'oubliez pas, il y a toute cette tournée des grands moments. Ça commence le 30 novembre, ça s'achève le 19 mars. Et il y a Paris à Bercy, 12, 13 et 14 décembre. Voilà, RTL, il est midi et demi.